Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur VOA Afrique. Eric Manirakiza et Lionel Runanira Gahima en votre compagnie. Bienvenue à cette édition de ce vendredi 8 avril 2016, dont voici d'abord le sommaire.
Faut-il garder ou abandonner le franc CFA? La question sera discutée samedi à Yaoundé.
Des amours à Ouagadougou, la société civile agacée par l'attitude du nouveau régime.
C'est jeter le discrédit sur les OSC et puis se mettre de côté. Et c'est ça que nous avons dit que nous ne pouvons plus accepter.
Une activiste de la société civile.
Déroulement du génocide au Rwanda, nous revenons sur les faits étayés par le professeur René Denisegui en juillet 1994 sur nos antennes.
Censure du témoignage d'Oblé Goudé en Côte d'Ivoire, son livre « De l'enfer, je reviendrai » est interdit de vente.
La notification s'est faite de façon verbale au libraire qui était chargé de la vente en Côte d'Ivoire.
Maître Simplice-Séry Zoku a retrouvé dans la seconde partie de notre émission.
Washington profondément déçu par la présidentielle au Congo.
Et le pasteur Ntoumi dans la ligne de mire du président Sassou.
Dans le district de Maïama, il y a aussi eu des bombardements.
Qui vous bombarde?
C'est le président Sassou.
Le divorce est donc consommé, à suivre dans quelques minutes.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et le sport. Mais d'abord, le journal.
La réélection de Denis Sassou Nguesso est maillée d'irrégularités. Le département d'État ne cache pas sa profonde déception d'un processus électoral imparfait en République du Congo, selon un communiqué. Le ministère américain des Affaires étrangères, qui déplore des arrestations de soutien de l'opposition dans la foulée des élections, a exhorté le pays d'Afrique centrale à corriger ses nombreuses déficiences avant de programmer les élections législatives en vue d'apporter une crédibilité aux processus électoraux à venir.
Depuis hier, le Rwanda commémore la mémoire des victimes du génocide de 1994. C'est le Front patriotique rwandais, FPR Inkotanyi, dirigé par le major Paul Kagame, qui l'a arrêté 3 mois plus tard. Le professeur René Denisegui, dépêché sur place après la tragédie, a parlé d'assassinat orchestré et programmé.
Ce que j'ai pu constater en arrivant, c'est le massacre, c'est la guerre. C'est la guerre parce que je l'ai entendu par les bombardements et les crépitements d'armes de tous les côtés.
Vous avez parlé d'assassinats orchestrés et même programmés.
D'abord, cette campagne d'incitation à la violence, qui a été le fait de la radio rwandaise et de la radio libre des Mille Collines. Ensuite, des armes avaient été distribuées et que les miliciens auraient même suivi des entraînements dans des camps militaires. En troisième lieu, il y avait des listes de personnes qui circulaient. Ces listes ont permis notamment d'arrêter des leaders d'opinion et des défenseurs des droits de l'homme. Sans compter la célérité exceptionnelle avec laquelle les événements ont commencé, c'est qu'après la mort du président rwandais, quelques 30 à 45 minutes avant même qu'on ait annoncé la nouvelle à la radio nationale, les barricades étaient déjà dressées.
Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette édition.
Et dans le sud-est de la RDC, province du Katanga, le verdict du procès de 34 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements en 2013 entre les deux communautés est renvoyé à la mi-mai. La cour d'appel de Lubumbashi a décidé d'entendre les victimes. Le point avec Eddy Issango.
La cause est, selon les présidents de la cour d'appel des Lubumbashi, Eugène Kaungo Kalala, renvoyé au 16 mai 2016 afin de rouvrir les débats et entendre les victimes. Ces dernières semblent n'avoir pas été régulièrement saisies et ne se sont jamais présentées au procès ouvert en août. C'est là, en dépit du soutien logistique apporté aux greffes par l'ONU. Les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, José Maria Aranaz, s'était dès l'ouverture déclaré préoccupé par la disproportionnalité entre les chefs d'accusation, crimes contre l'humanité et génocide, et la manière dont l'instruction était menée. Il estime que les temps additionnels sera mis à profit aussi bien pour approfondir les enquêtes que pour entendre les victimes en vue d'aboutir à une décision basée sur les faits. Les 34 accusés ont été appréhendés dans le nord du Katanga au cours de plusieurs vagues d'arrestations, dont la première s'est déroulée en juillet 2014. Ils ont ensuite été transférés à Lubumbashi, dans le sud de la province. Depuis 2013, dans le nord du Katanga, les affrontements entre les combattants bantous de l'ethnie Luba et ceux pygmées du sous-groupe Batwa se sont souvent soldés par des tueries, des pillages ou des incendies de villages et des déplacements des populations.
Les ministres de finances de la zone franc vont se retrouver samedi à Yaoundé sur fond d'interrogation sur l'avenue du franc CFA, dont certains souhaitent l'abandon. John Linden.
Les ministres des finances de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, utilisant le franc CFA, vont se réunir avec leur homologue français, Michel Sapin, pour faire le point sur la situation économique. La question de l'avenir du franc CFA pourrait revenir sur le tapis. Ces débats récurrents depuis la création de cette monnaie il y a 70 ans a été relancé en 2015 par le président tchadien Idriss Déby Itno, qui avait appelé les pays à se doter de leur propre monnaie. Lors du dernier sommet de la zone franc, le 2 octobre à Paris, Michel Sapin avait rappelé que la France est ouverte à toutes les discussions. De passage à Paris hier, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Caboret, banquier de son métier, a assuré que tôt ou tard, il faudra en discuter au regard des difficultés que traverse l'Europe. Le franc CFA, utilisé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est lié à l'euro par un système de parité fixe. Pour garantir cette parité, 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français.
Les Djiboutiens votent aujourd'hui pour choisir leur président. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh est presque certain d'être réélu à la tête d'un pays qu'il dirige d'une main de fer depuis 1999 en raison des divisions au sein de l'opposition. Quelques 187 000 électeurs sur une population de 875 000 habitants sont appelés aux urnes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les candidats à la Maison-Blanche se concentrent sur New York qui doit voter le 19 prochain, un état clé pour le ticket au scrutin général de novembre. Hillary Clinton a brièvement pris le métro jeudi à New York dans le cadre d'une escale de campagne dans le Bronx, occasion de se moquer de Bernie Sanders, son rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche. En tête des sondages, Hillary Clinton veut une victoire éclatante pour faire oublier ses 6 défaites dans les 7 dernières primaires.
Les États-Unis et leurs alliés du Golfe Persique ont échangé jeudi au sujet de leurs préoccupations concernant les activités déstabilisatrices de l'Iran dans la région, a expliqué le secrétaire d'État américain John Kerry jeudi à Bahreïn. Les explications.
Ces provocations, a fait savoir John Kerry à l'issue de ses discussions avec ses homologues des pays du Conseil de coopération du Golfe. Si l'Iran voulait des relations normales avec les pays de la région, il aurait changé sa politique, a souligné de son côté le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir, qui s'exprimait au nom des pays du Conseil de coopération du Golfe. Depuis septembre, des navires militaires ont intercepté des cargaisons d'armes soupçonnées de provenir de l'Iran et d'être destinées aux rebelles houthis du Yémen. La dernière saisie, opérée fin mars par la marine de guerre américaine au large d'Oman, comprenait des fusils AK-47, des lance-grenades et des mitrailleurs. Par ailleurs, Téhéran a procédé à diverses reprises à des essais de missiles balistiques. L'Iran doit consacrer à ses voisins les mêmes efforts qu'il a déployés pour décrocher l'accord nucléaire avec les grandes puissances, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie de Bahreïn, Khalid bin Ahmed Al-Khalifa.
C'était les précisions de Michel Joseph.
Et la Corée du Nord a lancé vendredi une nouvelle bordée d'injures personnelles contre la présidente sud-coréenne Park Geun-hye, qualifiée de femme maléfique empreinte de bellicisme. Cette salve d'insultes émise par la Commission pour la réunification pacifique de la Corée fait suite à un sommet sur le nucléaire présidé la semaine dernière par le président américain Barack Obama, auquel participait Mme Park.
Deux dirigeants de premier plan sont pris dans la tempête de Panama Papers qui balaye la planète. Le président argentin, sur lequel une enquête est demandée, et le premier ministre britannique qui a admis avoir détenu des parts dans un fonds offshore. Déjà confronté à la menace d'un Brexit, David Cameron fait face à une crise politique majeure au Royaume-Uni après son aveu jeudi soir qu'il a détenu dans le passé des parts dans le fonds offshore de son père.
Et le pape François publie vendredi à midi ses directives très attendues sur la famille et le mariage après deux synodes qui avait illustré les profondes divisions de l'Église sur des sujets délicats comme les divorcés remariés et les homosexuels.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Miniteco avec John Lyndon.
Les pays africains doivent nécessairement créer les infrastructures de base pour le développement d'une industrie agroalimentaire afin d'assurer la sécurité alimentaire sur le continent, déclaration hier à Abidjan du Premier ministre ivoirien. C'était à l'ouverture de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique sur le thème « La transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée ». L'Association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso a décidé de saisir la justice contre la firme américaine Monsanto, rapporte l'agence APA, citant des responsables de l'association. Celle-ci accuse la compagnie américaine d'avoir introduit une variété OGM de coton, le Bolgar 2, qui a provoqué une baisse de la qualité des fibres du Burkina, occasionnant un manque à gagner de 48,3 milliards de francs CFA. Le Burkina produit annuellement environ 800 000 tonnes de coton, source de revenus pour quelque 4 millions de Burkinabés. Faciliter les échanges économiques entre l'Afrique et les États-Unis, c'est la mission que s'est assignée l'Africa International Chamber of Commerce, qui vient d'organiser à Houston une mission économique à laquelle prenait part Alain Miniem, directeur général de Orthoservice.
C'était une expérience enrichissante. On a rencontré beaucoup de personnes et d'entreprises intéressées par l'Afrique et qui ne connaissent pas l'Afrique. Donc je pense que les entreprises africaines gagneraient à venir plus souvent afin de démontrer le potentiel que nous avons, puisque apparemment pour les Américains, la prochaine destination, c'est l'Afrique.
C'était la Muniteco. Merci John. Votre actualité sportive avec Nicolas Pinot. Nico, bonjour.
Bonjour Eric.
Nous commençons par le football des quarts de finale de l'Europa League hier soir.
Et oui, Dortmund a été tenu en échec hier soir par Liverpool. Un but partout lors du quart de finale aller au Westfalenstadion. C'était le grand retour de Jürgen Klopp dans le club de la Roure. Divock Origi a ouvert la marque pour les Red Devils. Et le capitaine Mats Hummels a égalisé pour Dortmund. Le match retour aura lieu dans une semaine en Angleterre, à Anfield Road. Autre résultat, le Sparta Prague qui s'incline à Villarreal 2-1. Le FC Séville qui réalise une belle performance à Bilbao en battant l'Atlético 2-1. Autre victoire à l'extérieur, celle du Shakhtar Donetsk qui domine les Portugais du Sporting de Braga.
Et Nico, au niveau du classement FIFA, l'Argentine passe en tête.
L'équipe de Lionel Messi a détrôné la Belgique en tête du classement FIFA, publié ce jeudi. Le 30 mars, l'Albi Céleste, grâce au 50e but en sélection de son quintuple Ballon d'Or, Lionel Messi avait dominé la Bolivie 2-0. C'était pour les qualifications de la zone sud-américaine du Mondial 2018. Le même jour, les Belges s'étaient inclinés 2-1 au Portugal. Ils n'avaient pas vraiment la tête au football après les attentats de Bruxelles. A noter que le top 10 est chamboulé, avec notamment les déboulés du Chili à la 3e place et de la Colombie. L'Algérie est la première nation africaine, 33e, suivie par la Côte d'Ivoire, 34e. Le Sénégal est 43e.
Passons à l'athlétisme, ultimatum de l'Agence mondiale antidopage au Kenya.
L'AMA donne jusqu'au 2 mai au pays pour adopter une nouvelle législation antidopage et éviter ainsi une éventuelle interdiction de participer aux Jeux olympiques de Rio cet été. Il s'agit du deuxième report accordé par l'AMA, le Kenya ayant déjà échoué à deux reprises à se conformer aux précédentes dates butoirs. C'était le 11 février et le 5 avril. C'est ce qu'a rappelé l'Agence mondiale antidopage. Enfin Eric, je vous laisse donner quelques résultats de NBA. Le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Oui, 5 matchs hier, Nico. Toronto a battu Atlanta 95-87. Miami a battu Chicago 106-98. Phoenix a battu Houston 124-115. Minnesota l'a emporté contre Sacramento 105-97. San Antonio a perdu face à Golden State 101-112. Et enfin, la NBA ira hommage à Kobe Bryant, le quintuple champion NBA qui mettra fin à sa carrière le 13 avril contre Utah.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Retour avec vous sur VOA Afrique dans Le Monde aujourd'hui. La deuxième partie de notre émission, première escale de l'Afrique des Grands Lacs. 22 ans après, les Rwandais se rappellent encore de cette tragédie qui s'est abattue sur le pays des mille et une collines. Le deuil national s'étendra jusqu'au 4 juillet, date de la fin du génocide. Pour qualifier ce qui s'était passé de crime de génocide, les Nations Unies avaient envoyé un enquêteur sur place au Rwanda. Ibuka veut dire « souviens-toi » et VOA Afrique se souvient avec une archive sonore de l'interview accordé à Idriss Fad par le professeur René Degny-Segui en juillet 1994. Il s'exprime d'abord sur la mort du président Juvenal Habyarimana.
Non, hélas, je n'ai pas pu déterminer les circonstances de la mort du président Habyarimana. Je n'ai pas pu non plus obtenir l'aboiement. J'ai adressé une requête aussi bien au gouvernement français qu'au gouvernement rwandais par l'intermédiaire de l'état-major et les deux m'ont dit d'être pas en possession de la boîte.
Sur la base des faits que vous avez constatés, vous avez tiré une conclusion d'abord juridique.
J'ai estimé que au regard de la convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, ce massacre constituait un génocide. Parce que les éléments constitutifs du génocide se trouvaient réunis, à savoir d'abord qu'il y ait un acte criminel, c'est-à-dire des meurtres, des assassinats, cela est démontré par les massacres. Ensuite, qu'il y ait une intention de détruire tout ou partie d'un groupe ethnique. L'intention se trouve bien dans la campagne orchestrée qui révèle un appel à l'extermination. Et puis en troisième lieu, les Tutsis étaient visés comme tels, à la différence des Hutus, qui eux étaient visés en tant que traîtres à leur groupe et en tant que partisans de l'ennemi principal qui est le Tutsi.
Il semble que vous êtes en possession d'une liste de coupables.
Oui, mais il nous faut tout petit peu de temps pour établir le lien d'imputabilité. Pour donner la direction, je dis c'est d'abord des membres du gouvernement, des gens très haut placés au niveau du gouvernement, des autorités locales, des préfets, des bourgmestres, quelques éléments responsables de l'armée, les membres des milices, les membres des partis extrémistes, et puis il y a aussi les membres des animateurs de la radio des mille collines.
Quand vous utilisez le terme de génocide, vous savez qu'au plan juridique, ça a des implications internationales.
Oui, c'est qu'on va demander aux États sur les territoires desquels se trouve cette personne de prendre les mesures pour que cette personne n'échappe pas. En principe, ces États devraient pouvoir juger cette personne. Mais ce que nous préconisons, c'est que ce soit une juridiction internationale ad hoc et à défaut l'extension de la compétence du tribunal qui a été constitué pour l'ex-Yougoslavie.
Voilà une archive sonore du professeur René Degny-Segui en 1994 au Rwanda. Et le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a fermé ses portes cette année pour clôturer les procès.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso démet de ses fonctions le pasteur Ntumi. Il occupait jusque-là le poste de délégué général auprès du président de la République, chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. L'ancien chef rebelle est accusé d'être à l'origine de l'attaque de lundi à Brazzaville. L'intéressé démentait lundi sur VOA Afrique. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent dans le pool. Nicolas Pinault a joint Frédéric Pistamou, alias Pasteur Ntumi.
À ma connaissance, le président Sassou n'a pas encore pris les fonctions. Et si j'ai été nommé par décret présidentiel, réellement, c'est un autre décret présidentiel qui allait abroger le décret qui me nommait. Et là, il venait effectivement de prendre un décret présidentiel. Ben, qui l'a signé? Il a signé en tant que qui? Bon, on se demande. Posez-vous la question vous-même. Je sais que moi, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'à la manière où se font les choses ici en Afrique, c'est de la barbarie.
Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le pool, notamment?
Effectivement, nous sommes sous des bombardements chaque jour. Ça fait plusieurs jours. Il y a des destruction massive, les populations sont en errance dans des forêts, les écoles sont fermées, les écoles aussi sont détruites, les dispensaires aussi. Ça se passe dans Kinkala, précisément dans un village qu'on appelle Somuna. Ça se passe aussi dans le district de Vinza, il y a eu aussi des bombardements. Dans le district de Mayama, il y a aussi eu des bombardements.
Qui vous bombarde ?
C'est le président Sassou. Ce sont les forces du gouvernement. Nous interpellons la communauté internationale. Il faudrait que la communauté internationale intervienne pour qu'il y ait une médiation et que toute la classe politique s'asseye. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on présente la situation que c'était les bandits qui étaient allés attaquer les positions de la police. Mais il y a d'abord une cause qui est là. Nous sommes dans une contestation d'une élection présidentielle. Les truqués. Bon, vraiment, on se demande de la position de la France quand le chef de la diplomatie a dit qu'il ne pouvait pas soutenir Denis Sassou Nguesso parce que ça fait plus de 32 ans qu'il est au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il va prêter serment à bientôt. Ben, quel sera le sort réservé à toute cette population qui a voté contre lui ?
Est-ce que vous craignez pour votre vie ?
Je ne peux pas dire que je suis en sécurité, je suis menacé, mais il faudrait qu'effectivement du nord au sud, de l'est à l'ouest, sache que le Congo, ce n'est pas seulement le nord. Et puis le Congo, ce n'est pas seulement le sud. Tous ceux-là qui ont voté contre Sassou doivent le savoir que si Sassou arrive à neutraliser cela qu'il est en train de pourchasser, c'est sûr qu'il va passer aussi chez les autres. Le temps qu'on vit, on peut avoir de l'espoir. On dit qu'un chat vivant est plus qu'un lion mort.
Pasteur Tommy, joint au Congo-Brazzaville, une interview à retrouver sur notre site www.voafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le livre de Blégoudé interdit en Côte d'Ivoire. Le livre témoignage de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens jugé pour crime contre l'humanité devant la CPI a été interdit de vente en Côte d'Ivoire selon son avocat. Intitulé « De l'enfer, je reviendrai », le livre publié le 24 mars dernier par la maison d'édition française Les Éditions du Moment vient d'être interdit en Côte d'Ivoire alors qu'il venait à peine d'y être enfin mis en vente après moult difficultés, accuse l'un des avocats de Blégoudé, Nicolas Pino, adjoint maître Simplice Seri Zoku.
Nous pouvons confirmer que le livre est interdit, même si cette interdiction ne nous a pas été notifiée, en tout cas ni à moi ni à notre éditeur. La notification s'est faite de façon verbale au libraire qui était chargé de la vente en Côte d'Ivoire. Et cela s'est produit hier, après que le livre a été mis à peine en rayon. Et ils ont reçu injonction de la part d'agents qui sont arrivés sur les lieux après avoir d'abord envoyé des messages, nous dit-on, par SMS, et qui leur ont notifié le fait que le ministère de l'Intérieur exigeait que le livre ne soit plus mis en vente.
Avez-vous eu des contacts au niveau des autorités ivoiriennes ?
Nous n'avons eu encore aucun contact, mais nous avons, à notre niveau, actionné des contacts en Côte d'Ivoire pour prendre langue avec le ministère afin de comprendre de quoi il en revient. Même si nous estimons qu'il appartenait au ministère, de nous faire connaître par une décision officielle les raisons de cette interdiction.
Alors vous êtes à l'origine de ce livre avec M. Blégoudé, « De l'enfer, je reviendrai », c'est le titre de cette série d'entretiens. De quoi s'agit-il ?
Il a été construit autour de lui une sorte de légende et qu'il était temps également que lui aussi dise sa part de vérité après toutes les histoires qui ont été racontées sur lui au cours des 10 dernières années. Donc il s'agit de la façon dont il a vécu le déroulement de la crise post-électorale et notamment la fin de cette crise, comment il est sorti de la Côte d'Ivoire, pour faire aussi taire les rumeurs qui avaient couru sur le fait que ce seraient des éléments des FRC qu'il avait aidé à partir hors de la Côte d'Ivoire. Et puis, comment il vivait en exil, on révèle qu'il n'a jamais quitté le Ghana en réalité. Et comment il a été arrêté, on révèle qu'en réalité, il y a eu des accords entre les gouvernements ghanéens et ivoiriens dans un contexte certainement de négociations diplomatiques sur des aspects qui nous dépassaient, qui le dépassaient. Et puis, vraiment, ce retour en Côte d'Ivoire qui a été terrifiant pour lui. Donc, sa détention dans des endroits à l'insu de ses avocats, à l'insu des organisations des droits de l'homme, qui ne le verront que quelques mois, des mois après sa détention, donc notamment à la DST et dans des maisons désaffecté, où il était soumis à toutes sortes de tortures physiques et morales.
Maître Simplice Seri Zoku, l'un des avocats de Blégoudé, joint à Paris.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
Le cadre de concertation des organisations de la société civile hausse le ton au Burkina Faso. Cette plateforme, qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile en pointe de l'insurrection populaire d'octobre 2014, a organisé une rencontre avec la presse pour s'insurger contre ce qu'elle considère comme une cabale du gouvernement contre les organisations pro-transition. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Ces organisations de la société civile burkinabé sont remontées contre les accusations du gouvernement de complicité de blanchiment de plus de 110 milliards de francs CFA et de deal de parcelles reprochés au gouvernement de transition et principalement à l'ex-premier ministre Yacouba Isaac-Zida, d'ailleurs attendu à Ouagadougou pour des explications. Pour la présidente d'honneur du cadre de concertation des organisations de la société civile, il était impératif désormais, après un certain temps d'observation, d'interpeller les acteurs gouvernementaux, Safiatou Lopez-Zongo.
Nous avons dit au gouvernement de faire la lumière, de donner les noms de ceux-là qui sont impliqués dans ces histoires de deal de parcelles et de blanchiment d'argent. Parce qu'au niveau du cadre de concertation nationale des associations, on ne se reconnaît pas dans ces histoires. Parce que si vous avez des preuves, pourquoi vous ne sortez pas ces preuves?
Cela fait une quinzaine de jours que le Premier ministre Paul Kaba Tiéba laissait entendre lors d'une rencontre avec les OSC de l'implication de certaines de ces dernières dans les malversations dénoncées, sans toutefois ressortir les noms des OSC concernés. Pourquoi? Safiatou Lopez a sa petite idée là-dessus.
Je me dis que dans ce gouvernement-là, même s'il y a des gens qui sont impliqués dedans, ils ont des camarades dans ce gouvernement, donc ils ne font pas de communication. C'est jeter le discrédit sur les OSC et puis se mettre de côté. Et c'est ça que nous avons dit que nous ne pouvons plus accepter.
Pour la présidente d'honneur du cadre de concertation des OSC, il y a clairement ici volonté de casser les OSC de l'insurrection au profit de personnes acquises.
On s'est dit non, il faut les casser pour réorganiser des gens qui sont acquis à leur cause. Ils peuvent créer, mais nous disons, où étaient ces gens-là? Il y a un problème. Nous avons risqué nos vies, la vie de nos familles. Des autorités aujourd'hui ne savent même pas comment nous avons mené cette lutte-là. On ne peut pas regarder l'insurrection à la télé et puis venir gérer ce pays-là. Ça au moins c'est clair. Si tu ne tiens pas compte de ce qui a amené le soulèvement populaire, tu as échoué. Quelles que soient tes compétences techniques.
L'occasion fut belle pour ces leaders d'OSC d'en appeler au président du Faso sur la cherté de la vie liée à une augmentation récente de certains produits de base et la question du système nouveau de contrôle douanier mis en application il y a quelques semaines, s'il vit qu'il ne ferait pas l'unanimité auprès des importateurs. En attendant la réponse du gouvernement à cette interpellation, Roch Kaboré a été invité à plus d'actions afin d'incarner le vrai changement attendu en mémoire du lourd tribut payé par le peuple insurgé. Voici plus d'un an déjà. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
The original girls of Dollywood are the problem case. All y'all picking them and telling them boss. Yeah, I be telling y'all feeling them now. Hear this? Them got the priceless body and the insurance chip. One of the girls them want and I eat around the place. Priceless body and the insurance chip. One of the girls them want and I eat around the place. A body priceless, that mean them have to pay. Tell a man that are you around the place. A body priceless, that mean them have to pay.
Ainsi va le monde aujourd'hui à la réalisation lyonnaise de Runanira Gaïma. La mise en onde était assurée par Alison John. Eric Manirakiza, la présentation. Excellente journée à tous. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre site internet voafrique.com.